Madigan.
Ardigan présente On se reverra de Lisa Jules, traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem, lu par Émilie Ramey. Première partie. Chapitre 1er. Alice Lake vit au bord de la mer, dans une petite maison de garde-côte construite il y a plus de 300 ans pour des gens bien plus petits qu'elle. Les plafonds sont affaissés, ils ont gonflé par endroits, et son fils de 14 ans doit baisser la tête pour passer la porte d'entrée. Les enfants étaient si petits quand ils ont quitté Londres, il y a 6 ans. Jasmine avait 10 ans, Kai 8, et Romaine seulement 4 mois. Comment aurait-elle pu imaginer qu'un jour, son fils deviendrait une grande tige d'1,80 m et que cette maison serait trop étroite pour sa famille? C'est dans sa petite chambre tout en haut de sa maison qu'Alice travaille. Elle transforme de vieilles cartes en objets d'art et les vend sur Internet pour une petite fortune. Enfin, c'est une petite fortune pour des morceaux de cartes, mais pas grand-chose pour une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts. Elle en vend 2 par semaine. Juste assez pour vivre. Derrière sa fenêtre, une guirlande de fagnons aux couleurs délavées flotte dans les bourrasques d'avril entre 2 lampadaires victoriens. À gauche, une jetée en béton protège de petits bateaux de pêche colorés des lames de la mer du Nord qui déferlent sur la côte rocheuse. Au-delà, la grande bleue. Cette mer qui la fascine tant. Noire et infinie. Si proche et si lointaine. Par la fenêtre de sa chambre à Brixton, elle ne voyait que des murs, les jardins des voisins, des tours à l'horizon, et devinait le ciel sous une épaisse couche de pollution. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée face à cette immensité. Quand elle s'assied sur le canapé à l'autre bout de la pièce, elle ne voit plus que cela, la mer, comme si elle s'était substituée au mur, comme si elle menaçait de s'engouffrer par la fenêtre pour les engloutir. Elle se concentre sur l'écran de son iPad qui retransmet l'image d'une petite pièce carrée où un chat, assis sur un canapé vert, fait sa toilette. Une théière fume tranquillement sur une table basse. Elle entend ce qu'il se passe dans la maison. Sa mère qui parle à l'aide à domicile, son père qui parle à sa mère. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, car le micro de la webcam, qu'elle a installé dans leur salon la dernière fois qu'elle leur a rendu visite, n'est pas assez puissant pour capter le son des autres pièces. Cette aide extérieure rassure Alice. Ses parents prendront bien leur repas et leurs médicaments. Ils seront lavés et habillés, et pendant 1 heure ou 2, elle est dispensée de se faire du souci pour eux. Cela non plus elle n'aurait pas pu l'imaginer 6 ans plus tôt, quand elle a quitté Londres. Mais ses deux parents, si vifs et actifs pour des septuagénaires, ont tous les deux été déclarés atteints de la maladie d'Alzheimer à quelques semaines d'intervalle. Ils doivent être aidés et surveillés en permanence. Alice clique sur la commande de Max Fitzgibbon. Il veut une rose confectionnée avec des cartes du comté de Cumbria, de Chelsea et de Saint-Tropez pour les 50 ans de sa femme. Elle imagine très bien à quoi il peut ressembler. Bien conservé, les cheveux argentés, portant un pull au vert lavande, toujours profondément amoureux de sa femme après 25 ans de mariage. Tout cela rien qu'avec son nom, son adresse et la nature de sa commande. Elle a toujours aimé les grosses roses anglaises bien rouges, a-t-il écrit dans la case « Commentaire ». Alice lève les yeux de son écran et regarde par la fenêtre. Il est toujours là, l'homme sur la plage. Il n'a pas bougé depuis ce matin. Quand elle a ouvert ses rideaux à 7 heures, il était déjà assis sur le sable mouillé, les bras autour des genoux, les yeux rivés sur l'horizon. Elle garde un œil sur lui, prête à intervenir s'il essaie de se noyer. C'est déjà arrivé une fois. Un jeune homme pâle comme la mort avait laissé son manteau sur le sable pour disparaître dans le clair de lune bleutée. 3 ans après le drame, cette vision continue de hanter Alice. Mais cet homme-là reste assis, immobile. Il fait froid aujourd'hui, et les bourrasques giflent la plage d'embrun glacé. Pourtant, il est en t-shirt, sans veste ni sac, sans chapeau ni écharpe. Alice a du mal à le cerner. Pas assez débraillé pour être un rôdeur, pas assez bizarre pour être l'un des patients du centre psychiatrique de la ville. Il semblait en trop bonne santé pour être un junkie et il n'a pas bu une goutte d'alcool depuis qu'il est arrivé. Il regarde au loin. C'est tout. Alice cherche le mot juste pour le décrire. Il a l'air... paumé. Une heure plus tard, il se met à pleuvoir. Les gouttes s'écrasent contre la fenêtre de la chambre d'Alice qui s'en approche et jette un coup d'œil à la plage. L'homme est encore là. L'averse a collé ses cheveux châtains à son crâne et ses vêtements sont trempés. Dans une demi-heure, elle doit être à l'école pour récupérer Romaine. Il faut agir vite.
« Héros ! Sadie ! Griffe ! »
crie-t-elle en descendant l'escalier.
« C'est l'heure de la promenade !»
Alice a trois chiens. Griffe, le lévrier, est le seul qu'elle a choisi d'adopter. Le caniche Sadie appartient à ses parents. À 18 ans, cette chienne a l'air plus morte que vive. Elle a perdu la moitié de ses poils et ses pattes arrière sont aussi frêles que celles d'un oiseau. Mais elle veut tout de même sortir avec les autres pour la promenade. Héros est un staffy que Barry, un ancien locataire, a abandonné le jour où il a disparu en laissant tout derrière lui, y compris sa chienne intenable. Héros ne peut pas sortir de la maison sans muselière, sinon elle attaque les landaus et les trottinettes. En attachant les laisses des chiens qui se pressent autour d'elle, Alice remarque sur le porte-manteau la vieille veste râpée qui appartenait à Barry. En la voyant, elle ne peut réprimer une grimace. Depuis qu'elle a fait l'erreur de coucher avec lui dans un moment d'intense solitude, elle ne peut pas s'en empêcher. Cette malheureuse nuit-là, lorsqu'il s'était allongé sur elle, elle avait été envahie par les forts effluves de fromage qui émanaient de son corps grassouillet. Alice avait retenu sa respiration, mais le mal était fait. Elle l'avait associée à cette odeur. Elle attrape la veste du bout des doigts, la pose sur son bras, prend les laisses, un parapluie et sort de la maison.
« Tenez !»
dit-elle en tendant la veste à l'homme. L'homme se retourne lentement vers elle. Il n'a pas l'air de comprendre ce qu'elle veut dire, alors elle continue maladroitement.
« C'est celle de Barry, mon ancien locataire. Il avait à peu près votre carrure. Mais vous ne sentez pas mauvais comme lui. Enfin, je présume, vous avez l'air de quelqu'un qui sent bon. »
L'homme regarde Alice, interloqué. Puis il observe la veste.
« Alors, vous la voulez ?»
Il ne répond pas.
Bon, je vous la laisse ici. Moi, je n'en ai pas besoin. Je ne tiens pas particulièrement à la garder, alors autant qu'elle vous soit utile. Même si c'est juste pour vous asseoir dessus, quitte à l'acheter à la poubelle après.
Elle la dépose à ses pieds, puis se relève.
Merci.
Ah, vous n'êtes pas muet.
Non, pas du tout,
lui répond-il, visiblement déconcerté. Il a un accent du sud de l'Angleterre. Ses yeux noisettes sont exactement de la même couleur que ses cheveux trempés, et sa barbe mal rasée. Il est plutôt beau dans son genre.
« Bien !»
dit-elle, tenant fermement son parapluie pour se donner une contenance.
« C'est bon à savoir. »
Il sourit et prend la veste mouillée dans ses mains.
« Vous êtes sûre que vous voulez me la donner ?»«
Oui !»
répond-elle.
« Je cherchais justement à m'en débarrasser. Vous me rendez service. »
Il enfile la veste sur ses vêtements mouillés et remonte la fermeture éclair avec difficulté.
« Merci beaucoup, »
dit-il dans un souffle, l'air sincèrement reconnaissant. Alice se retourne et cherche ses chiens du regard. Sadie est assise à ses pieds, les pattes dans le sable mouillé. Les deux autres jouent au bord de l'eau. Elle regarde à nouveau l'homme.
« Vous devriez vous mettre à l'abri. Il paraît que ça va tomber jusqu'à demain matin. Vous risquez de prendre froid. »
« Qui êtes-vous »
lui demande-t-il en plissant les yeux, comme s'il faisait un effort pour se rappeler un nom qu'il aurait oublié.
« Je m'appelle Alice. On ne s'est jamais vu, je crois. »«
Je ne vous reconnais pas non plus, »
déclare-t-il, l'air rassuré.
« Je dois y aller maintenant. » »«
Je comprends. »
Alice attrape la laisse de Sadie, qui se relève péniblement sur ses pattes chancelantes comme un bébé girafe qui vient de naître. Alice appelle les deux autres chiens. Mais ils font mine de ne pas l'entendre. Elle secoue la tête d'énervement et crie de plus belle.
« Chien à la con !»
peste-t-elle en s'approchant d'eux.
« Allez, on y va !»
Ils s'ébattent dans les vagues et se roulent dans le sable. Héros est couverte d'algues verdâtres. Il va falloir les laver. C'est déjà l'heure d'aller chercher Romaine et elle ne peut pas se permettre d'être en retard une fois de plus. Hier, elle était plongée dans son travail, elle n'a pas vu leur passer. Quand elle est arrivée à l'école à 15h50, la secrétaire l'a fusillée du regard depuis son bureau, comme si elle était une affreuse tache sur la moquette. « Bougez-vous, petit merdeux !» Elle traverse la plage à grandes enjambées et essaie d'attraper Griff, qui veut jouer avec elle et l'esquive. Elle court vers Hiro, qui s'enfuit à toute allure. Pendant ce temps, la pauvre Sadie se fait traîner de droite à gauche, essayant tant bien que mal de tenir debout. La pluie s'intensifie. Le jean d'Alice est complètement trempé. Ses doigts sont gelés et leur tournent. Elle crie de frustration et décide de mettre en pratique une technique maintes fois éprouvée quand ses enfants étaient petits.
« Très bien. Restez ici. On verra comment vous vous en sortez sans moi, quand vous devrez aller supplier pour un tout petit bout d'os. Démerdez-vous !»
Les chiens s'arrêtent, les yeux braqués sur elle. Elle se retourne et marche vers l'homme qui n'a pas bougé.
« Vous voulez des chiens ?»
lui crie-t-elle.
« Franchement, vous les voulez ? Moi, j'en ai ras-le-bol. »
L'homme la regarde, ses yeux de pain d'épices écarquillés.
« Je... »
Elle lève les yeux au ciel.
« C'était une blague. »
« Ah, oui, je vois. »
Elle le dépasse et avance vers les marches de pierre qui mènent à la route. Il est 15h30. Les chiens attendent au bord de l'eau. Ils la regardent s'éloigner. Soudain, ils se jettent à sa poursuite. La rattrape en quelques secondes et s'arrête à ses côtés, les poils collés par les algues et le sel. Elle entend l'homme qui l'appelle.
« Madame ! Excusez-moi ! Où suis-je ?
Pardon ?
Où sommes-nous ? Cette plage ! »
Elle éclate de rire.
« Vous ne savez pas où vous êtes ?
Non ! Aucune idée !
Nous sommes à Riding House Bay ! »
Il hoche la tête.
« D'accord. Merci. »«
Allez vous mettre au chaud quelque part !»
lui conseille-t-elle d'une voix douce.
« Ne restez pas sous la pluie !»
Il lui sourit, l'air désolé, et Alice fait un signe de la main avant de se diriger vers l'école, espérant qu'il ne sera plus là lorsqu'elle rentrera. Alice sait qu'elle fait un peu tâche à Riding House Bay. Mais soyons honnêtes, des tâches, il y en avait déjà un bon paquet avant son arrivée. Dans la petite ville, elle détonne avec son accent londonien, sa famille Benetton et ses manières un peu brusques. Sans parler de ses chiens. Où qu'elle aille, il faut qu'ils attirent l'attention. Ils ne lui obéissent pas, ils aboient, grognent et gémissent quand elle les laisse à l'entrée d'un magasin. Parfois, les gens changent de trottoir pour les éviter. C'est surtout Hiro qui leur fait peur, avec sa muselière et son corps trapu. Depuis qu'elle s'est installée à Riding House Bay, Alice est considérée comme une marginale énigmatique, voire inquiétante, même si cela ne reflète pas du tout sa véritable nature. Quand elle vivait à Londres, elle avait un tas d'amis. Elle sortait souvent et passait ses soirées à refaire le monde avec eux autour d'une bonne bouteille. C'était le genre de mère qui attendait aux portes de l'école après avoir déposé les enfants et proposait aux autres d'aller boire un café. Elle était toujours au centre de l'attention, à parler fort et à rire de bon cœur. Mais elle avait été trop loin. Et tout avait changé. Ici, elle s'est tout de même fait une amie qu'elle a rencontrée il y a un an et demi. C'était la rentrée de Romaine en CP. Derry Dine a croisé son regard et elles se sont tout de suite comprises.
« Vous voulez boire un café ?»
lui a demandé Derry, qui avait remarqué les yeux embués d'Alice, émue de voir sa fille grandir.
« Ou quelque chose de plus fort ?»
Derry a 5 ans de plus qu'Alice et fait une tête de moins. Elle a un fils du même âge que Romaine et une fille adulte qui vit à Édimbourg. Elle adore les chiens autant qu'elle aime Alice. Elle est du genre à les embrasser sur la bouche. Elle n'a pas tardé à se rendre compte que cette dernière avait une tendance à prendre de très mauvaises décisions, aux conséquences parfois catastrophiques, et elle essayait toujours de la tempérer. Elle discute pendant des heures des problèmes d'Alice pour gérer les difficultés de Romaine en classe. Elle l'empêche de se disputer avec les enseignants et l'administration de l'école. En semaine, elles peuvent boire une bouteille de vin chacune, mais Derry lui interdit toujours d'en déboucher une troisième. Elle lui dit chez quel coiffeur se rendre et quelle coupe demander.
« Des mèches, sans dégradé, une seule couleur, mais une application nuancée, à l'aluminium. »
Avant, elle était coiffeuse, mais elle a arrêté pour se lancer comme praticienne de Reiki, les massages japonais. Elle connaît mieux l'état des finances de la famille Lake qu'Alice elle-même. Et elle est là, devant l'école, avec Romaine et Danny, son fils, blotti sous un grand parapluie rouge.
« Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Les chiens m'ont fait un cirque pas possible sur la plage, je n'en pouvais plus.
Alice se penche pour déposer un baiser sur le front de sa fille et prendre son sac.
« Pourquoi tu as sorti les chiens par ce temps atroce ?»
lui demande Derry.
« Une sombre histoire.
Raconte-moi.
Tu veux venir boire un thé à la maison ? C'est un peu long. »
Derry jette un coup d'œil à son fils.
« On était censé aller en ville acheter des chaussures. »«
Passer à la maison, c'est sur le chemin. Tu comprendras mieux la situation. »«
Regarde !»
lui dit-elle, accoudée au muret de la digue en désignant une forme au loin sur la plage. Il est encore là.
« C'est qui ?»«
Un type. Je lui ai donné une veste. Celle que Barry a laissée. »
Derry frissonne à l'évocation de ce nom. Elle se souvient bien de Barry. Alice lui a expliqué en long, en large et en travers ce qui était arrivé.
« Il n'avait pas de manteau ?»«
Non, il était en t-shirt, trempé jusqu'aux os. Il m'a demandé où on était. »
Les deux enfants essaient de regarder par-dessus le muret en se hissant sur la pointe des pieds.
« Il ne sait pas où il est ?»«
Non, il a l'air perdu. »«
Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. »
la supplie Derry.
« T'en fais pas, je m'en mêle pas. »
« Tu lui as donné une veste, c'est un peu tard maintenant. »«
J'ai simplement fait preuve d'humanité. »«
Voilà, c'est bien ça le problème avec toi. »
Alice lève les yeux au ciel et se dirige vers sa maison.
« Tu veux vraiment aller faire du shopping, par ce temps ?»
Derry regarde les nuages noirs au-dessus de leur tête.
« Ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. »«
Venez à la maison, je vais faire du feu pour nous réchauffer. »
Derry et Dani restent à la maison pendant 2 heures. Les petits jouent dans le salon pendant que leur mère boive un thé dans la cuisine. Jasmine rentre à 16 heures, complètement trempée, son sac de cours sur le dos, sans manteau ni parapluie. Kai arrive une demi-heure plus tard, accompagné de 2 copains de classe. Alice fait des spaghettis pour le dîner, et Derry l'empêche d'ouvrir une bouteille de vin, prétextant qu'il est l'heure d'y aller. Il pleut encore. De petites rigoles d'eau boueuse qui dégringolent des toits traversent la route jusqu'à la plage. Le vent s'est levé. Il hurle et projette les gouttes avec violence contre les façades des maisons. De sa chambre, Alice jette un coup d'œil à la plage. L'homme est toujours là, mais il s'est mis à l'écart près de la digue, assis sur un tas de cordages. Son visage est levé vers le ciel, les yeux clos. Le cœur d'Alice se serre. Il est peut-être fou. Peut-être dangereux, mais la douceur de ses traits et de sa voix lui revient à l'esprit. Elle est dans cette maison pleine de vie, bien au chaud près de la cheminée, à l'abri. L'idée qu'il soit dehors, seul, perdu, lui est insupportable. Elle verse un peu de thé dans un thermos, demande au grand de surveiller Romaine et sort.
« Buvez ça !»
lui dit-elle. Il lui sourit et attrape le thermos.
« Je vous avais dit de vous mettre au chaud. »«
Oui, je m'en souviens. »«
Pourquoi est-ce que vous êtes encore là, alors ?»«
Je n'ai nulle part où aller. »«
Vous êtes à la rue ?»
Il acquiesce, puis se ravise et fait non de la tête.
« Je ne crois pas. J'en sais rien. »«
Comment ça, vous ne savez pas ?»
lui demande-t-elle, incrédule.
« Depuis combien de temps êtes-vous sur la plage ?»«
Depuis hier soir. »«
Et avant ?»
Il se retourne et la regarde droit dans les yeux. Il a peur.
Je ne sais pas où j'étais.
Alice fait un pas en arrière. Ce n'était pas une bonne idée.
Ne t'en mêle pas.
La voix de Derry résonne dans sa tête.
Vraiment ?
Lui demande-t-elle. Il repousse les cheveux collés sur son front en soupirant.
Vraiment ?
Dit-il en se versant un peu de thé dans le bouchon du thermos.
À la vôtre. Merci beaucoup.
Alice regarde la mer. Elle ne sait pas quoi faire. Une partie d'elle voudrait rentrer à la maison, au chaud. Mais elle ne peut pas laisser cet homme sans en savoir plus.
Comment vous vous appelez ?
Je pense...
Hésite-t-il, les yeux perdus dans la tasse de thé.
Que j'ai perdu la mémoire. Enfin...
Il se retourne soudainement vers elle.
C'est possible, non ?
Ajoute-t-il.
C'est la seule explication possible. Je ne sais pas comment je m'appelle, mais j'ai probablement un nom. Tout le monde a un nom, n'est-ce pas ?
Alice acquiesce.
Et je n'ai aucune idée de ce que je fais là, ni d'où je viens. Plus j'y pense,
plus je suis convaincue d'avoir perdu la mémoire.
Je vois. En effet, c'est possible. Êtes-vous blessée quelque part ?
Demande-t-elle en désignant sa tête. Il se palpe le crâne quelques secondes.
Non, je ne crois pas.
Vous avez déjà perdu la mémoire ?
Je n'en sais rien.
Lui répond-il sérieusement avant de se mettre à rire devant l'incongruité de la question.
Vous êtes dans le nord du pays, vous savez ça ?
Non, je ne savais pas.
Et vous avez un accent du sud, c'est de là que vous venez ?
J'imagine,
répond-il en haussant les épaules.
C'est fou.
Vous avez trouvé quelque chose dans vos poches ?
Oui, il y avait quelques papiers. Mais ça ne m'a pas appris grand-chose.
Vous les avez gardés ?
Oui,
dit-il en fouillant dans sa poche arrière.
Voilà.
Il sort un paquet de papiers trempés.
Ah oh, zut.
Alice détourne le regard et observe les vagues pendant un instant, puis le ciel sombre. Elle se passe les mains sur le visage et inspire profondément.
Bon, je suis probablement folle, c'est même sûr, mais j'ai un petit studio au fond de mon jardin. Je le loue habituellement, mais il est vide en ce moment. Vous pourriez dormir une nuit, le temps que les papiers sèchent, et demain on y verra peut-être un peu plus clair. Ça vous irait ?
Il la regarde sans y croire.
C'est tellement généreux, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Mais je dois vous prévenir,
dit-elle en commençant à marcher.
C'est un peu le bazar. J'ai 3 enfants très bruyants et mal polis, et 3 chiens intenables. C'est le chaos. Je vous aurais prévenu. Vous ne pourrez pas vous plaindre.
C'est parfait, quoi qu'il en soit,
dit-il, reconnaissant.
Merci infiniment. Vous êtes si gentille, je n'en reviens pas.
Moi non plus,
répond-elle en remontant l'escalier qui mène à la route, l'inconnu à ses côtés.
Moi non plus.